tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de la parole au travail. Il y a une idée comme ça, vieille comme le taylorisme, que travailler c'est faire la machine. Lire l'adresse du courrier, le classer, marcher, mettre la lettre dans la bonne boîte. Comme un robot sur une chaîne, emboîter un joint en suivant la gamme. Comme un ordinateur, analyser les symptômes, livrer le diagnostic, prescrire le remède. Bien sûr, on va dire qu'il faut de l'humain, que l'homme a des besoins qui ne sont pas ceux de la machine. Alors, quand on met de l'essence dans une tondeuse, il faut mettre de l'affection, des sentiments, de la reconnaissance dans l'homme. Un peu d'amour et de subjectivité. Mais juste ce qu'il faut pour ne pas gâcher le carburant. Et c'est reparti. Mais il y a comme un grain de sable, une épine quelque part dans ce beau projet d'un monde bien réglé. C'est qu'il y a le réel. Le monde vivant qui a la fâcheuse habitude de ne jamais se répéter. C'est vieux cette histoire. Héraclite disait déjà il y a 2500 ans, en Grèce, « À ceux qui descendent dans les mêmes fleuves, surviennent toujours d'autres et d'autres eaux. » Ce fleuve que l'on voit semble toujours le même, et pourtant il est toujours différent. Un postier vous dira que chaque tournée a sa spécificité. Un opérateur sur une chaîne, que les pièces ont leurs différences. Un médecin, que chaque patient est singulier. Le réel, qui semble toujours le même, est pourtant toujours différent. Et là, il n'y a que l'intelligence vivante d'une femme ou d'un homme au travail pour s'adapter, réfléchir, trouver une solution efficace. Le grand mystère, c'est pourquoi on ne s'en rend plus compte. Pourquoi on se met à croire à la machine en nous et chez les autres. Et là, je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, suivons ensemble un professeur des écoles qui va nous emmener dans sa classe. Il va nous expliquer que son métier, c'est aussi de monter des marches, même si on ne sait pas toujours où elles peuvent nous mener. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Et c'est une histoire super forte, c'est une histoire qui parlait du quartier en fait. C'était l'idée, c'était que le matin, il y avait trois gamines qui se réveillaient chez elles, trois sœurs. Et puis il y avait pas de bruit. Les parents se réveillaient pas. Et plus de bruit, plus rien. Et petit à petit, donc, elles s'aperçoivent de ça. Au début, ça les inquiète. Puis finalement, elles descendent dans la cité. Et elles s'aperçoivent que d'autres enfants sont là. Mais en fait, il n'y a que les enfants qui se sont réveillés ce matin-là. Et tout à coup, ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils ont toujours rêvé peut se faire. Et donc, on a travaillé avec eux sur le rêve de ce que ça pouvait être, leur cité. Qu'est-ce qu'ils voulaient réinventer dans la cité, qu'est-ce qu'il fallait changer, etc. Donc ils nous ont dit des couleurs, des choses comme ça. Tu vois. La journée, elle commence par monter dans sa classe, déjà voir les collègues, je dis bonjour à ceux qui sont là. Le directeur, souvent il est là quand je suis arrivé, on arrive tous à peu près vers là. Bon, les cours ils commencent à 8h30, donc c'est-à-dire qu'en gros on est là déjà à 3 quarts d'heure avant la prise du boulot. Donc déjà ça commence bien, parce que bon, en l'occurrence à la busserie on a une équipe qui est chouette, qui est installée là depuis longtemps, et c'est des gens qui sont devenus des amis. Voilà. Et puis à 8h20 en fait il y a l'ouverture de l'école, avec l'arrivée des élèves. Donc la journée démarre bien normalement. Et là, les gamins se rangent. Ça fait partie des compétences à acquérir. Donc ça nécessite d'y revenir toute l'année jusqu'en CM2. Mais on arrive à l'obtenir. Globalement, hein, l'école de la Busserine, c'est une école que je trouve très pacifiée de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a... Il y a des règles communes qui ont été mises en place sur justement ces temps où les gamins sont dans la cour, les moments où ils doivent se ranger. Et globalement, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a sonné, les gamins viennent se ranger. Et chaque enseignant vient devant son rang, récupère son rang, monte dans les couloirs. On exige que les gamins, quand ils rentrent dans la salle de classe, ils savent que c'est pour travailler.
Alors, mais ça, après. Je cherche la vitesse moyenne.
Si
sur quel parcours?
Après, ben, on rentre dans la classe et ça démarre, quoi. Ça démarre. Il y a un exercice de prévu. Il y a des métiers, ce qu'on appelle les métiers. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de rôles que certains gamins tiennent et qui tournent chaque semaine. Donc il y en a un qui fait l'appel, par exemple. C'est pas moi qui fais l'appel, c'est un élève qui fait l'appel. Donc les gamins se mettent au travail. Il y en a un qui efface le tableau. Il peut le faire soit la veille au soir, soit le matin en arrivant. Voilà. Et les autres démarrent sur l'exercice pendant qu'il y en a un qui est en train de faire l'appel. L'idée générale, c'est qu'il soit en permanence en activité, en train de faire quelque chose. Voilà. Alors il y a des temps qui sont plus souples. Mais bon, le matin, ils sont disponibles, ça démarre. Une fois que l'appel est terminé, j'interromps tout le monde, on se dit bonjour. Voilà, si l'exercice est un peu compliqué, je donne une consigne immédiatement au moment où je le donne. Ce matin, quand ils démarrent le matin, ils ont une consigne, ils doivent essayer de se débrouiller seuls, quoi. Je l'explicite pas forcément. Voilà. Mais bon, souvent, c'est des exercices, c'est des reprises de choses qu'on a déjà faites. On n'attaque pas sur quelque chose de nouveau à ce moment-là, quoi. C'est des choses qui sont normalement en situation capable de faire, quoi. Ouais. Les difficultés, elles interviennent après. L'idée, c'est que comme le matin, on se remet dans le bain, c'est le moment où il y a l'appel qui se fait. C'est des choses qui sont en situation de pouvoir faire. On corrige vite fait, on rappelle un peu les difficultés qu'on a eues la veille. Voilà. Et puis on attaque sur des choses un peu plus compliquées où on apprend quelque chose de nouveau.
C'est une erreur, oui, c'est une erreur. Oui, il m'a dit c'est une erreur, parce que je voulais récupérer une erreur surprenante.
Mais je me suis entraînée qu'une seule fois, il y a eu 7,
Ils viennent à mon bureau et si je m'aperçois que l'exercice que j'aurais posé pose problème à la majorité de la classe, tu vois, je m'aperçois que là, c'est pas juste de quelques gamins qui sont en difficulté, c'est l'ensemble de la classe qui arrive pas à résoudre ce que j'ai demandé, quoi. Après, quand ils passent au bureau, le jeu, c'est de donner le déclic. C'est ce qui est très difficile dans notre boulot, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, c'est de savoir. C'est de pas donner la réponse, c'est-à-dire de pas se substituer au gamin quand il est dans cette phase où il cherche, où il essaye de comprendre quelque chose, voilà. Ça peut être des outils, hein. Un outil, ça peut être reprends ta leçon dans ton cahier, ça peut être regarde la fiche qui est dans la classe où on a noté la règle, ça peut être juste lui poser une question, tu te rappelles ce qu'on avait dit la veille sur ces deux mots-là, voilà, et essaye de résoudre ton problème. Mais c'est rare que je me retrouve en situation de dire stop, on arrête tout. C'est rare quand même. Et la grande difficulté de notre boulot, c'est justement d'être capable de se trouver à l'endroit où ils peuvent comprendre quelque chose de nouveau, en fait. Si c'est trop dur, ils vont se prendre un mur et ils vont pas découvrir. C'est pas la peine de leur refaire faire 20 fois ce qu'ils savent déjà faire. Donc l'idée, c'est moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller à la marche d'après, quoi. Je prends souvent l'image de l'escalier avec mes élèves, quoi. Je leur explique pourquoi c'est important de travailler toute l'année. C'est parce que chaque marche est importante, quoi. Et que c'est la marche d'après. Il ne faut pas leur demander 4 marches au-dessus et ça ne sert à rien de rester au même palier pendant.
Est-ce que ça va
Ismaël, comme il va la faire, il va rien comprendre à la tienne, tu vas rien comprendre à la sienne. Chacun, parce qu'il y a des mots-clés qui sont importants pour toi, il y a des mots-clés qui sont importants pour les fiches, elles se fichent.
Je sais pas, je te prends un exemple, par exemple, en grammaire, repérage du verbe, tu vas démarrer sur une phrase simple, et puis après, tu vas montrer que dans les phrases, il peut y avoir plusieurs verbes conjugués, tu vas mettre des verbes conjugués qui n'ont pas de verbe, tu vas mettre des adverbes au milieu parce que ça finit par ENT et ils vont s'apercevoir qu'il y a des verbes qui finissent par ENT mais que tous les mots qui finissent par ENT ne sont pas des verbes. Tu vas mettre des verbes à l'infinitif pour qu'ils fassent la distinction entre verbe conjugué et verbe à l'infinitif. Voilà, donc tu as tout un tas de difficultés ou des mots qui peuvent être à la fois des noms et des verbes. Par exemple, le mot travail, quoi. Le travail ou je travaille, voilà, qui fasse la distinction à quel moment c'est un verbe conjugué, à quel moment c'est un nom. En fait, quand j'ai démarré, je faisais des grandes séances d'1h30. Alors ça, c'est banni dans ma classe. J'ai réduit 45 minutes et maintenant j'ai encore réduit. En gros, j'ai peu de séances qui dépassent 30 minutes pour garder l'attention des gamins, en fait. Alors, c'est 30 minutes, après, des fois, ça pousse un peu, tu vois, si ça se passe bien, je vais... Bah, l'avantage, voilà, d'avoir 11 ans d'expérience, c'est que maintenant, je m'ajuste, en fait, à ce qui se passe dans la classe. C'est-à-dire que si la séance, je vois que ça se passe bien, les gamins, ils sont dedans, ils sont en train d'apprendre quelque chose, ils sont en train de saisir un truc, et je peux pousser un peu plus, j'en profite, donc je peux moduler ma matinée... en fonction de ce qui se passe devant moi, quoi. Mais sinon, ce qui est programmé au départ, c'est 30 minutes par matière. Cette année, par exemple, on démarrait sur les 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, jeudi, on démarrait tous les matins, c'était grammaire, après calcul, après conjugaison, histoire, récré. T'essayes d'aider les gamins qui sont en difficulté, t'essayes de passer dans les rangs, de donner un étayage. Bon. Mmh. Mais il y a un moment où tu es obligé de faire avancer ta classe, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu vas évaluer la compétence que tu as travaillée, tu sais qu'il y a quelques gamins qui sont encore en difficulté là-dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre justement dans ces petits groupes pour essayer de bosser là-dessus avec eux. Mais assez rapidement, on se retrouve un peu submergé par ces situations-là, tu vois. Et on doit quand même avancer, quoi. Et ben, les gamins, ben, ils n'ont pas acquis. Voilà. Les gamins, t'as des gamins qui n'ont pas acquis. Alors il y a des choses que tu fais. Moi j'essaye de travailler de manière à ce qu'une notion elle soit reprise en cours d'année. C'est-à-dire par exemple tu vois un gamin qui a pas, je démarre par exemple, je reprends l'exemple de la grammaire parce que c'est le plus simple. Un gamin qui a pas réussi à repérer le verbe dans toutes les situations en début d'année, je sais que comment on va faire conjugaison toute l'année, on va retravailler régulièrement et on va retravailler sur cette question-là. Tu vois, en calcul, c'est pareil. On va faire une première session, on va travailler, et puis on va le réutiliser en résolution de problèmes, on va le réutiliser, on va reprendre ça en cours d'année, tu vois, t'essaies de faire en sorte que ça revienne. On est au maximum de ce qu'on peut faire, évidemment que le jeu, c'est ça. Mais moi, je me suis aperçu, par exemple, cette année, que sur certains gamins en difficulté, j'avais fait beaucoup de choses, tu vois, lien avec les parents, discussion avec le gamin. On organise des suivis, tu vois, pour les gamins. C'est-à-dire qu'il y a des suivis extérieurs qui peuvent se mettre en place, de l'aide aux devoirs. Ils peuvent, pour certains, aller voir un psychologue à l'extérieur de l'établissement. Ils peuvent, si jamais c'est des problèmes extrascolaires. Mais d'abord, sur tout un nombre de suivis, ça met des années et des années à se mettre en place. Par exemple, on a, sur l'école d'Albusserine, on a ce qu'on appelle un maître supplémentaire qui intervient sur le CP et sur le CE1. On s'aperçoit que ça, donc c'est un enseignant qui va tourner dans les classes de CP-CE1 et qui va justement être là en soutien de l'enseignant pour traiter les questions de difficultés scolaires dans la classe, ce qui est excellent. Mmh. Mais nous, par exemple, ça nous a permis d'avoir quasiment plus de redoublements en CP. Voilà. Et d'avoir une grande majorité des gamins qui étaient lecteurs en fin de CE1, mais bon lecteur, quoi, tu vois, qui étaient capables. Voilà. Donc ça, c'est super. Mais à partir du CE2, c'est fini. On rencontre des difficultés à partir du CE2, tu vois, mais on n'a pas ça. Tu vois, on n'a pas ce système-là qui permettrait de remédier à un certain nombre de difficultés des gamins. Donc seul dans la classe, tu peux faire des exercices de niveaux différents, tu peux apporter de l'aide aux gamins qui sont en difficulté, tu peux faire de ton mieux pour adapter les exercices en fonction des difficultés que rencontrent les gamins. Mais tu as aussi l'exigence d'arriver au bout de ton programme, de faire en sorte que ceux qui suivent puissent avoir la possibilité de faire... d'acquérir toutes ces connaissances-là, et il y a un moment où on se retrouve en situation de pas y arriver, quoi. De pas y arriver. Et pour moi, c'est là où je dis que les instits, ils sont un peu seuls aujourd'hui, là. Que là, on est dans une situation où il y a des cumuls de difficultés qui font que tu te dis il devrait y avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir gérer ça. Et c'est là où je te dis on est seul, c'est-à-dire que il y a des... Pour que les gamins deviennent disponibles pour les apprentissages, il y a des choses à mettre en place pour eux. Nous, on peut être en situation de l'identifier. Mais la pérennité des structures extérieures, la quantité d'intervention, la qualité d'intervention qu'il peut y avoir sur les difficultés qu'on peut identifier, c'est en deçà de ce qui est nécessaire, quoi. Mais très en deçà. Mais je dis, c'est incroyable, quand on demande pour un gamin un suivi ITEP en CP, donc ITEP c'est une structure spécialisée qui va prendre les gamins qui vont avoir des difficultés quand même très lourdes, et qu'on demande en CP et que le gamin il l'obtient en fin de CM2, te dis, mais attends, on a perdu 5 ans.
Je comprends même pas la conversation.
Qu'est-ce qu'on cherche ?
Capitaine. Moyenne.
Vitesse moyenne, c'est pas la même chose. La vitesse moyenne, vous devez travailler la vitesse moyenne.
Et je trouve qu'il y a une culpabilisation de l'enseignant. Parce que nous, on est là et on se sent en échec, nous. Mm-hmm. Tu vois, on se sent en échec, nous, parce qu'on se dit, putain, mais ce minot-là, ça fait 3 mois que je bosse là-dessus. Tu te retournes vers qui, quoi, comment Un psy scolaire, aujourd'hui, dans l'école de la Busserine, il suit pas que l'école de la Busserine, il suit 6 ou 7 écoles. Je crois qu'il a à sa charge 1300 gamins. Ça n'a aucun sens. Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait de l'aiguillage. Donc, tu vois, donc nous, on peut arriver à gérer par ces biais-là les situations extrêmes de gamins qui sont en très grande souffrance. Mais, et les autres, quoi. Quand tu regardes aux évaluations nationales les résultats des zones d'éducation prioritaires par rapport aux autres, tu aperçois qu'il y a un gros écart en fin de CM2. Mais forcément, parce que on nous donne concrètement, on nous donne pas les moyens humains. Mais quand je dis les moyens humains, moi, c'est pas juste il faut faire 15 élèves par classe. C'est les moyens en termes de professionnels, quoi, de gens qui vont avoir un autre regard que le nôtre sur l'enfant et qui vont apporter une autre aide. Quand on diagnostique que le gamin, il est pas disponible pour les apprentissages, c'est pas moi qui peux le résoudre dans la classe, tu vois. Enfin, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait ailleurs, autrement. Moi, quand je suis arrivé sur ma circonscription, il y avait 10 maîtres E, c'est-à-dire les instituts qui étaient là pour la difficulté scolaire. Aujourd'hui, je crois qu'il en reste un.
Un ou deux. Ah oui.
Monsieur, on rentre à quelle heure, comme ça,
pour
faire des maths?
Je sais pas, moi j'ai pas d'urgence là pour vous.
À quelle heure? 15h30. Moi je réunis l'histoire jusqu'à 16h30.
Dans le cadre, si on faisait notre métier, si on décide de faire un métier strict, de préparer la classe, d'aider un peu les gamins en difficulté, etc., mais on s'en sort pas. Donc après, c'est. Voilà, sauf qu'on n'a pas les moyens, en termes de nombre de professionnels, de compétences. De régler ce qu'on rencontre comme difficulté pour les gamins. Et les gamins, ils sont demandeurs. Hein. Enfin, moi, quand je dis on va faire un groupe et puis on va vous aider, mais je te dis, mais 80% des fois, le gamin, il est content. Tu sais, c'est les gamins, il a envie, quoi, tu vois. Il sent qu'il est en difficulté. Mais donc, voilà. Et c'est vrai que nous, on nous met en situation d'échec parce que nous, on a toujours les exigences institutionnelles qui sont les mêmes. Et moi, je suis absolument... Je trouve que c'est absolument fondamental qu'elles restent les mêmes, parce qu'il y a un débat en ce moment sur l'idée qu'il y aurait des gamins qui ne seraient pas capables de tout apprendre, que donc il faudrait... C'est l'idée du socle commun, là, hein, voilà. Moi, avec lequel je suis complètement contre, quoi. L'idée, en gros, il y a des apprentissages de base que tout le monde doit avoir, et puis après, il y a les apprentissages qu'on attend pour tout le monde, mais si tout le monde n'y arrive pas, c'est pas grave. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire, voilà, on donne pas les moyens de faire ce qu'il faudrait pour que tous les gamins arrivent à l'exigence qu'on a pour tout le monde, et donc on accepte qu'une partie des gamins... soit dispensé d'un certain nombre. Alors que bon, c'est quoi l'idée? Ce serait quand même plutôt de donner les moyens pour que tout le monde arrive au niveau qu'on juge nécessaire d'avoir, je sais pas, à 16 ans, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans.
Et toi, qu'est-ce que tu cherches?
Vas-y. Et ça, c'est la souffrance principale des équipes dans ces quartiers-là. Hein. C'est la souffrance principale, hein. C'est les collègues qui pètent les plombs parce que ils en sont à je sais pas combien d'heures de travail hebdomadaire et que enfin je sais pas moi, il y a pas un week-end où je bosse pas, quoi, où je bosse pas. Ça fait 11 ans que je fais le CM2 et je me fais engueuler par tout le monde, mais je refais encore mes cours. Je réajuste, je fais en sorte pour que ce soit plus clair pour les gamins. Je sais pas, en histoire cette année j'ai tout refait. À partir d'un travail de manipulation sur les documents, voilà, et j'ai passé des heures et des heures pour des séances qui durent après 4 heures, mais j'ai passé, je sais pas, 2 week-ends. T'es toujours en train de chercher, c'est-à-dire t'arrives à la fin de l'année et tu dis toujours, putain, mais j'ai pas fait ça, ça j'aurais dû le faire, ça j'ai pas eu le temps, etc. Donc en fait, t'es toujours en train de chercher ce qui va te permettre d'arriver le plus efficacement possible à l'apprentissage par les gamins des notions que tu veux leur faire. C'est-à-dire, tu te dis en gros ce que j'ai fait l'année dernière en 4 heures, il faut que j'arrive à le tenir en 2 pour pouvoir aller au bout de mon truc.
Personne n'arrive pas à dire toi comme tu vas la faire. Ismaël, comme il va la faire, il va rien comprendre. Tiens, tu vas rien comprendre si elle est chacun. Parce que les deux mots qui sont importants, les fiches, elles se filent pas. Tu peux le dire.
T'as deux choses hein, dans le rapport aux enfants. T'as le rapport à ta classe et t'as le rapport individuel à chacun d'entre eux. Bon. Le fond de l'affaire, c'est que, y compris ce qu'on disait en termes de programme, de notions pédagogiques, etc., moi, j'ai fait l'expérience que tu étais d'autant plus efficace là-dessus qu'il se passait d'autres choses dans ta classe et qu'il se passait autre chose avec les élèves, quoi. Donc moi, je résous ça par la mise en œuvre d'un certain nombre de projets en cours d'année dans ma classe. C'est pas, voilà, l'école, ça peut pas être simplement une somme de compétences avec une validation à la fin de 14 compétences sur 20, etc. Pour moi, c'est se situer face au monde, quoi, en gros. Voilà, se situer face au monde, grandir. C'est l'âge, enfin moi, CM2, tu vois, c'est l'âge où ils vont avoir 10-12 ans, ils sont pas loin de rentrer dans l'adolescence, il y a tout un tas de problématiques qui se posent. C'est réfléchir au monde, c'est de les faire avancer dans leur rapport à l'autre, dans leur compréhension du monde, et de les ouvrir à l'espace artistique, culturel, Il y a aussi, j'oublie un truc hyper important, c'est, c'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que je pense que dans ces projets-là, c'est ça que tu cherches, par exemple. Tu as le projet, par exemple, le truc de, le projet d'opéra qu'on a monté. Donc chaque année, les gamins, on avait demandé une autorisation pour pouvoir faire 3 heures de musique hebdomadaire avec les enfants, avec un groupe classe. Et ça a fini cette année par 2 représentations d'un opéra, mais de chants lyriques, quoi. Enfin, c'était pas vraiment un opéra, c'était un conte musical. C'était une histoire qui était entrecoupée de chants. Ce que j'ai vécu, moi, alors du coup, je vais parler de moi. Ce que j'ai vécu avec ces gamins-là, ce jour-là, c'était, je pense, c'était mes 2 plus belles journées depuis que je bosse à l'école de la Busserine. Parce que ce jour-là, il s'est passé, ça a été dur toute l'année, ça a été... Tu vois, parce qu'il y en avait marre, qui décrochaient, on les a raccrochés. Et puis, dans ces espaces-là, tu vois aussi des gamins qui se découvrent, quoi. Le niveau de chant qu'on leur demandait. Mais ça a été remarqué par tout le monde, si tu veux. C'est-à-dire qu'à la représentation, c'était un truc d'enfant. Donc je pense que les gens, ils s'attendaient à avoir un spectacle de fin d'année, quoi. Et là, c'est pas ça qu'on a proposé. C'est le niveau qui avait été proposé, qui avait été exigé d'eux là-dedans. C'était énorme. C'était énorme en termes de technique de chant, quoi. C'était un truc énorme. Et c'est-à-dire que t'as même des professionnels qui ont l'habitude de voir ce type de spectacle, mais qui ont été soufflés, tu vois, de ce truc-là. Et les gamins, ce qu'ils ont vécu ce soir-là, devant leur famille, devant des professionnels, le retour qu'on leur a fait, ce qu'ils ont vécu entre eux. Et je t'ai dit, et tu voyais en cours d'année, et au fur et à mesure que le spectacle avançait, t'avais des gamins, tu vois, des fois, ils étaient là... poser des difficultés, tu vois, en termes de comportement, parce qu'on leur demandait des fois 2 heures, 2 heures et demie de répétition, tu vois, il y a eu des crises, il y a eu des machins et tout. Puis les gamins, ils ont surmonté ces trucs-là. Et petit à petit, tu les voyais, en fait, ils commençaient à écouter sérieusement, ils s'impliquaient, ils rentraient dedans, ils savaient qu'ils allaient jouer, ils étaient capables d'une concentration énorme, ils discutaient avec les autres de ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait un truc, tout à coup, ils s'accaparaient le truc, quoi, tu vois, et ça devenait le... Et ce qui s'est passé entre eux, d'énergie, c'était incroyable. Et ce qu'ils ont donné sur scène, mais surtout... Et puis voilà, et puis recevoir des applaudissements, tu vois, à la fin. Mmh. Et d'exiger d'eux le plus, quoi. Et ils sont capables, et voilà, ils sont capables. On a fait enfin... Voilà, et pour eux, c'était une immense fierté. Enfin, il fallait voir, quand ils sont descendus de scène le premier soir... Il y a une forme de plénitude et de partage collectif que moi j'ai rarement senti. T'as une idée reçue qui est largement partagée en dehors des zones d'éducation prioritaire, c'est l'idée que les parents, ils sont des missionnaires. L'immense majorité, ils surinvestissent l'école. C'est étonnant, mais ils y mettent tout. Et c'est ça qui est terrible, c'est que... Mais évidemment, pour eux, l'école, c'est tout. C'est le moyen pour leur gamin, c'est le biais par lequel le gamin va devenir un adulte un jour, à l'école, pas que l'école primaire, hein, l'école en général, va devenir un jour un adulte qui aura ou non un métier, qui sera heureux ou pas dans sa vie, etc., tu vois, enfin... Et que c'est l'école, ça doit être un outil de réussite sociale, quoi, tu vois. Et que donc les gamins, c'est important qu'ils travaillent bien. Même, je veux dire, les parents qui peuvent pas aider leurs gamins en aide aux devoirs, etc., ils te le disent. Ah ben, ils te disent, mais c'est hyper important l'école, vous m'appelez dès qu'il y a un problème. Pour eux, c'est l'école, quoi. Il n'y a pas d'autre chemin, quoi. Et j'ai même envie de dire, tu vois, plus ils sont dans la difficulté, plus l'école, c'est important. Moi, je me pose la question de quitter l'école de la Busserine à cause de ça. Parce que j'ai de plus en plus de mal à gérer l'idée que ce qui serait possible de faire, de mettre en œuvre pour obtenir que ces gamins aient de réelles chances, en tout cas égales de celles des autres, d'arriver dans leur vie d'adulte, tout ce qui est nécessaire à mettre en œuvre n'est tellement pas mis en œuvre que ça m'interroge vraiment. Pour partie, l'école ne répond pas à cette exigence-là et qu'elle devrait y répondre. C'est marrant parce que tu vois, elle y répond pas, tu vois, tout ce que je t'ai décrit, et je reviens pas là-dessus, c'est-à-dire que il devrait y avoir des choses mises en œuvre. Tu vois, pour moi, dans une école, il devrait y avoir un psy au moins un jour par semaine, il devrait y avoir l'assistante sociale en permanence dans l'école, on devrait avoir des infirmières scolaires beaucoup plus présentes, je reviens pas sur tout ça. L'école, elle est telle qu'elle est, pour moi, elle est en état de dégradation avancée, et ceux qui le payent le premier, c'est évidemment dans ces zones-là. pour autant, maintenant que ça fait 11 ans que je suis dans cette école, je revois mes anciens élèves. Et j'ai plein d'histoires qui me font dire que malgré tous les défauts de l'école, c'est fondamental que cette école-là, elle reste en place, quoi. Même avec ces défauts-là. C'est-à-dire que si on enlevait ça, ce serait une catastrophe. Et que malgré tous les défauts qu'elle a, elle arrive quand même à être en situation de donner des portes de sortie aux minots. Je vais prendre un exemple. Je revois, il y a quelques années, un gamin qui était en CM2, la première année où je suis arrivé dans l'école. Je l'avais pas. Et c'était un gamin, il était terrible, quoi. Il était vraiment, il était dur, tu vois, à l'école. On s'en sortait pas, quoi. On a fait tout ce qu'on a pu pendant une année et... C'était dur, quoi. Il était en conflit permanent avec nous, en difficulté sur les apprentissages. Voilà, quoi. Rétif à l'espace scolaire, globalement, quoi. On s'est dit, au collège, ça va être une catastrophe, quoi. Souvent, ces problématiques-là, elles explosent au collège au moment de l'adolescence. Voilà. Et ce gamin-là, je le revois un jour dans un bus. J'amenais ma classe en sortie scolaire. Et je tombe sur lui dans le bus. Et on discute. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu fais? Et je m'attendais pas, tu vois, j'avais des préconçus, je m'attendais pas à un truc. Et je lui dis, alors au collège, comment ça s'est passé? Je me suis fait virer, machin, je suis dans un autre collège et tout. Et maintenant, c'est top. J'ai trouvé un CAP, là, c'est top. J'ai trouvé ma voie, je suis trop content, super. Et tu vois, je me suis dit, mais c'est génial. Et il me dit, ouais, là, je fais un stage, je démarre un stage, ça se passe trop bien avec le patron. J'ai dit, mais c'est incroyable, ce minot-là, moi je me disais, mais ça va être terrible, quoi, tu vois, enfin, j'avais les plus grosses craintes, tu vois, pour lui, je me disais, mais l'école n'a pas de solution, enfin, tu vois, va pas arriver à lui donner, en fait, si, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce gamin, il a trouvé sa voie, son truc, et j'étais vachement content, donc je raconte ça aux collègues et tout, puis je reste là-dessus, et je me disais, mais bon, quand même, l'air de rien, même avec tous ses défauts, l'école, elle permet ça, et en fait, je le revois 2-3 ans plus tard. Et en fait, il m'explique qu'il a fait tous les stages et puis que derrière, il n'a pas trouvé de boulot et que maintenant, il traîne dans la cité. Je me dis, mais merde, quoi, tu vois. Je me dis, même l'école, avec tous ses défauts, elle avait quand même trouvé le chemin pour ce gamin-là, quoi. Ce gamin, il avait trouvé son chemin dans cet espace-là. Il avait trouvé un endroit où, l'espace scolaire d'apprentissage était quelque chose de heureux pour lui, quoi, tu vois, juste heureux. Ben, en fait, derrière, ben voilà, il n'a pas trouvé de boulot.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Masson.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.